France Inter.
Ça vient de l'espagnol aire, et donc voilà, la vallée d'Or s'appelle comme ça, c'est une vallée qui est venteuse. Quand tu arrives sur le haut de vallée, notamment, tu as la brise qui se lève tous les jours aux alentours de 11h. Donc ouais. A priori, c'est pas une super vallée pour les abeilles, elles sont un petit peu gênées, mais c'est un joli nom, vallée d'Or.
CO2, mon amour.
Où qu'on soit, c'est pas les routes qu'on entend en fait, ce sont les rivières, hein, ce sont les cascades. Ouais.
Denis Chessou.
Il y a l'eau, il y a les oiseaux. Alors là, au printemps, c'est une explosion de chants. Ouais. Et puis voilà, ensuite, il y a le bourdonnement des abeilles quand je suis sur mes ruches. Et c'est plutôt très, très charmant. Ouais.
Sur France Inter.
Ah, il n'y a pas de doute, c'est bien CO2 de mon amour, la nature et les abeilles qui chuchotent à vos oreilles. Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous accueillir. Benjamin Wagon à la technique. Notre collaborateur, c'est Pierre Chabert. Oui, c'est Juliette Gou qui réalise l'émission. Qui commence par une petite humeur. Une campagne gouvernementale nous incite à faire du sport, à marcher, à véloter, plutôt que d'utiliser sa prothèse automobile sur les trajets courts. Et à veiller à notre alimentation en mangeant mieux. Et ainsi pourrions-nous diviser les cancers par deux. Donc une campagne très louable. Mais au-delà évidemment des comportements individuels, est-ce en avalant encore et toujours un maximum de pesticides que l'on va s'en sortir? Mais simplifions! Empêchons notre belle agriculture sous couvert de souveraineté alimentaire d'être freinée par des normes. Alors certaines en effet sont inutiles. L'intensive, voyez-vous, il n'y a que ça de vrai. Votre paysannerie aussi locale que ridicule ne consulte pas les cours du blé tous les matins à la bourse de Chicago. C'est le présent et l'avenir sans limite. Et regardez, ces pleurnicheurs, ces écolos névrosés, toujours à gratter le fumier comme des poulets. Quand les poulets, évidemment, sont dehors. Toujours à fouiner la belle prairie pour compter les lombrics. S'ils en trouvent, oui, car on en a éliminé quand même les 9/10. Et on leur souhaite bien du bonheur s'ils les bouffent, les lombrics, vu comment nos cuisiniers de l'agriculture intensive les ont farcis de substances létales et de toutes les poudres de perlimpinpin qui garnissent les rayons sites de la pharmacopée de nos coopératives. Un bon siècle d'expériences diverses pour éradiquer tout ce qui n'est pas rentable du paysage naturel ? Eh bien, c'est ça le progrès. Une batterie infinie de bidons multicolores, marquée par cette gracieuse tête de mort qui n'en a jamais fini de sourire, et non. Répandue sans trop de contrôle, et alors, efficacité avant tout. Propre est le champ ? Impeccable, sans ombre, sans haie, sans aucune verrue d'herbe folle, sans prédateurs, sans insectes, sans abeilles, pour distraire nos oreilles, sans oiseaux et sans hommes. Ah oui, mais dites donc, là, sans hommes, mais j'en fais partie, moi, oui. Le seul animal, quand même, assez bête et obtus pour détruire lui-même son environnement. Mais c'est à ce prix que l'on a cru nourrir l'humanité, nous dit-on. Alors l'humanité, aujourd'hui, se sent mal. Elle commence à ressentir toutes sortes de maux étranges dont elle cherche les raisons. Elle gratte avec ses ongles sales et à force de gratter, elle trouve, se renseigne, s'informe, pétitionne et se met en mouvement. Elle frappe à la porte des grands groupes, du gouvernement et des producteurs responsables et elle trouve porte close. Eh bien oui, hermétiquement. Vous voulez du rendement, de l'import-export, on s'en donne les moyens. Vous voulez du travail, il faut faire vivre les gens, d'accord, mais pas les rendre malades. Tous les chercheurs, médecins sont unanimes sur l'aspect délétère des pesticides, ils sont très inquiets. Alors merci monsieur le sénateur, votre amendement là, visant à lever les entraves au métier d'agriculteur a pris du plomb dans l'aile. La commission de développement durable de l'Assemblée a repris votre projet de loi, sorti des bureaux de la FNSEA, coordination rurale, et du ministère de l'Agriculture, en repoussant la réautorisation des néonicotinoïdes qui flinguent tout ce qui passe. Mais oui, les pollinisateurs, le métier d'apiculteur, en repoussant la facilitation aussi des gentilles installations classées qui peuvent présenter des dangers pour les riverains, mais ça on s'en fout. Bon, donc ils ont pointé aussi le désir de déclassement des zones humides, bah tiens, et l'accélération des projets de méga-bassines. Alors continuez à tuer le vivant, à fabriquer nos maladies, tout en faisant fabriquer par les mêmes entreprises les médicaments pour nous soigner. Tout le monde est d'accord pour aider, comme nous le faisons avec nos impôts, nos agriculteurs, puisqu'ils ne sont pas payés le vrai prix. Mais pas en flinguant donc les sols, l'eau, le vivant, pas avec une bombe à retardement sanitaire que nous paierons longtemps alors que vous ne serez plus là. Alors cette loi du plomb, si elle passe à l'Assemblée, sera tout simplement futuricide. Secouez donc vos députés, et pas que pour les abeilles, mais pour nous. Pour nos enfants, pour que la nature ne ressemble pas à une paillasse de laboratoire dans les cuisines du diable. Eh ben oui, ça s'appelle un petit coup de gueule. On se retourne vers le beau maintenant, ben oui, parce qu'il y a des gens qui bossent formidablement bien en agriculture, avec Julien Vernardet. Dans quelques instants, on va se tourner vers nos abeilles noires pyrénéennes et on va faire couler des rayons de miel en Vallée d'Or.
J'avais à cœur de t'emmener dans des lieux isolés. Un seul projet de vie s'enfuir à jamais. La foule folle alliée, tribu de cinglés. Je vais prendre les choses en main, pour leur faut juste se tailler, se tailler, se tailler. Mais les voiles plient sous le poids des années. Les mains sont un fatras de combine alambiquée. Courir vers toi un temps, le temps de tout dépenser. Au pied d'un mur d'argent, s'évader dans ses pensées. Respire le parfum de tes cheveux, si le moment se prête, respire un peu. Attire, toucher du bout des yeux, peu à peu, juste du bout des yeux. Cette fille agile, déroule en même le fil. J'avais à cœur de t'emmener dans des lieux isolés. Un seul projet passé entre les mailles du filet. Tu dis que je saute des cases, mais je vais pas seul poireauter. Je passe de point de paroter, GPS coordonné. Je m'en cogne, mon cœur est une boussole. Je suis magnétisé. Parfum de tes cheveux, si le moment s'y prête, respire un peu. Attire, toucher du bout des yeux, peu à peu, juste du bout des yeux. Un peu, le style qui pline entre les cils, cette fille agile, déroule en main de le fil. Cette fille agile, déroule en main de le fil. Un peu le style qui cligne entre les cils. Cette fille agile, déroule en main de le fil.
De cette chanson, je retiens qu'il nous a dit donc respire et puis The Atlas Mountain. Ben, ça tombe très très bien parce que Mountain, on va partir dans les Hautes-Pyrénées et nous aussi on va tirer un fil, mais un fil d'or.
Vous avez vu cette montagne qu'on a, elle est magique en toute saison. Quand vous vous rapprochez d'une ruche, on va l'entendre, on va la sentir en fait, hein, quand le nectar rentre et que les chaudes soirées d'été, une ruche ça sent bon. C'est beau à regarder, c'est un animal qui parle à tous les sens. La première ruche, j'ai ce souvenir-là. Après chaque repas, en fait, j'allais voir la ruche et puis j'allais boire le café, me manger un petit dessert ou quoi, en fait, en regardant les abeilles. C'est marrant, hein, c'est un animal qui pique, hein, c'est un animal qui peut mal vous accueillir parce qu'elle se défend. Et c'est vital pour elle de se défendre, hein, pas de problème avec ça, mais c'est très apaisant de vivre avec les abeilles.
Eh bien, nous étions dans la main du printemps, qui n'était pas encore rempli de chaleur d'été et pas encore non plus sous le régime des Saintes Glaces. Je venais de quitter avec mon ami Gilles Boeuf le festival du Flocon à la mer de Saint-Lary pour tenter de raconter les soubresauts du climat, de la nature, de l'océan, de la société. Bon, et puis je suis parti avec mon petit vélo rouge aux abeilles en regardant vers le sud. Et dans cette vallée d'or donc, qui grimpe vers l'Espagne, dans les Hautes-Pyrénées, ouverte au vent, aux autres, aux réfugiés, à ceux qui ont construit les barrages, l'hydroélectricité et puis les stations de ski. Alors c'est une vallée qui accueille l'ours, les aigles, les gypaètes et, ne pesant que moins d'un gramme, les abeilles noires des Pyrénées. Alors au-dessus de nos têtes, vous imaginez, on a 70 lacs qui nous regardent, ainsi que la réserve superbe, la réserve naturelle du Néouviel, au cœur de ce parc national des Pyrénées. Donc un des plus beaux sanctuaires biologiques vraiment que je connaisse. On va partir donc à Aragnouët. Ça peut signifier le petit Aragon, Aragnouët, ou bien le pays des épines noires, du prunelier. Car là-haut, dans le ciel pyrénéen, la parole est d'or, et le miel aussi, avec Julien Vernardet, qui est un ancien sociologue et aujourd'hui apiculteur.
Je ne suis pas originaire de cette vallée, ça fait une vingtaine d'années que je me suis installé ici. Je viens plutôt du nord de la France. L'étymologie de mon nom, elle est germanique. Vernardet, ça veut dire en gros, ça veut dire gros ours, grand ours.
Ah oui, voilà, ce qui est apiculteur,
assez
cocasse.
Ce qui est assez cocasse pour bosser avec des abeilles, je trouve. Voilà. On a des ours ici, quoi, donc...
Alors en fait, vous venez du Morvan et puis aussi du Jura, on va dire. Ouais. Vous êtes posé là parce que vous êtes tombé un peu amoureux du coin, parce que votre compagne donc, avait du travail ici. Voilà. Et alors, on tombe dans les abeilles comment, là ?
Alors moi j'avais toujours voulu avoir des abeilles, hein. Je sais pas, j'ai grandi, donc tout petit je voulais avoir des abeilles, c'est assez classique, mon grand-père avait des abeilles, c'était une agriculture autarcique, hein. je suis petit-fils d'éleveur, donc voilà, ils avaient des abeilles juste pour avoir du sucre hein, à l'époque. Mm-hmm. Quand je suis arrivé dans cette vallée, c'est pas des blagues, hein, la première chose que j'ai faite, c'était d'aller voir un apiculteur qui est à Tarbes, hein, c'est la ville... La plus proche, on va dire, c'est à 1h15 d'ici. Et puis, je me suis acheté un petit essaim d'abeilles et je suis revenu dans ma petite voiture avec un essaim. Et j'ai trouvé ça complètement magique hein, de rouler comme ça dans ma petite voiture en entendant les abeilles bourdonner à côté de moi, hein, sur le siège à côté. Et puis, en fait, la magie elle m'a jamais quitté.
Et alors là, face à nous, donc on a la grimpette là, qui mène au barrage de Caplon. Et du Néouviel.
Une jolie petite grimpette, hein. Il y a quelques kilomètres, c'est raide. Ouais.
Et après, vous arrivez sur une ribambelle de lacs. Hein,
C'est un beau massif, il n'y a pas d'habitants, hein. Il n'y a pas de village là-haut. C'est vraiment tout un massif inhabité et qui est somptueux puis qui est précieux, quoi, je pense.
Alors, si on se retourne, là, l'ours peut nous renifler ou pas?
Alors là, l'ours peut éventuellement nous renifler parce que c'est un très bon renifleur, hein, mais là on est plutôt donc du mauvais côté parce qu'on est sur la Soulane, hein, les hommes se sont toujours installés dans les Pyrénées sur les parties qui regardaient le soleil, hein, c'était tout simplement plus facile.
Et c'est pour ça qu'on appelle ça les Soulanes, c'est-à-dire qu'ici on n'a pas d'adret, donc au droit du soleil, ni du bac, mais nous avons donc des Soulanes.
Ouais, et des ombrées.
Et des ombrées.
Ouais, et donc en face de nous, on voit très bien qu'à la même altitude, on est dans la forêt.
Ouais.
Et dans cette forêt, surtout forêt de résineux, il y a notamment plein de myrtilles, plein de framboisiers, hein, c'est des jolies zones de cueillette, ce sont les jolies zones pour les ours. Hein. Les ours vivent plutôt dans les ombrées. Hein, voilà. Ils sont tranquilles là-bas, il y a moins d'hommes tout d'abord, et puis voilà, il y a plus de nourriture, plus d'endroits pour se cacher, pour giter. Ouais, le dernier ours hein, d'ascendance pyrénéenne, Canelito, il hiberne tous les ans juste sous le pic de Berre, là, qu'on aperçoit à gauche, là-haut. Là. Donc en face de nous, en fait. Hein. Les ours peuvent passer, notamment les mâles, au printemps. Ils se déplacent beaucoup, donc ils peuvent venir un petit peu sur les Soulanes, mais il n'y a pas de raison qu'un ours soit en train de nous renifler, là.
Bon.
Tu sais, on est dans une zone à ours, là. Moi, je me suis déjà fait croquer, hein, des ruches par des ours, mais c'est au début, pareil, où je bossais mal. T'es subventionné à 100% hein, pour protéger tes ruches. Mm-hmm. Ça, je fais aussi toujours avec les enfants que j'accueille. Je leur dis, alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je leur tire une balle? Est-ce que je les tue, les ours? Et heureusement, les enfants disent, non, quoi. Et j'explique, avec juste une petite clôture électrique, eh ben, on peut les tenir à distance, hein, ça ne blesse pas, ça fait juste, ça les surprend désagréablement, ils se tiennent à l'écart en fait des ruches.
Ah non mais chacun a sa place.
Voilà, ils ont toute la montagne tranquillement pour vivre et mes abeilles, elles peuvent butiner gentiment. Donc en fait ça se fait très bien, hein, c'est juste un petit peu de bonne volonté. Puis on n'est pas laissé à nous-mêmes encore une fois.
Alors vous avez donc, j'imagine, des ruchers un petit peu partout.
Là j'en ai juste en face là, j'en ai là.
Oui, d'accord. Mais alors, vous êtes quand même globalement en circuit court, c'est-à-dire que vous faites très attention à ça. Et puis, en fait, vos abeilles vont butiner quoi? Que des plantes sauvages?
Ici, il n'y a pas de culture. Hein, on est dans une vallée où il n'y a pas de culture.
Donc déjà, pas de pesticides, vous êtes tranquille.
Il peut y avoir un petit peu de pesticides, c'est vraiment anecdotique. Donc non, là, on est au-dessus de tout et on est très bien de ce point de vue-là. Mes abeilles butinent donc uniquement sur fleurs sauvages. Moi, je mets un point d'honneur quand même à travailler... localement, effectivement, et mes ruches sont ici, hiver comme été. Donc elles hivernent ici, parfois sous beaucoup de neige. Et ça se passe bien, ça se passe très bien.
Ça se passe bien, pourquoi? Parce qu'elles sont résistantes, parce que vous travaillez qu'avec de l'abeille noire.
Ouais, ça c'est un point hyper important. Après ce premier essaim dont je vous ai parlé tout à l'heure, j'ai été chercher des abeilles qui se baladaient dans le coin, des essaims au printemps. Vous savez que les abeilles essaiment au printemps. Et j'ai constitué toutes mes ruches à partir de ces abeilles d'ici. Les abeilles noires des Pyrénées, c'est des abeilles qui sont assez proches du type sauvage. Elles ne sont pas toujours super douces, elles ne font pas énormément de miel, mais par contre, elles sont rustiques. Elles n'ont pas forcément besoin de l'homme derrière elles pour survivre. Oui. Et ça, c'est hyper important pour moi. Voilà. Donc je fais peut-être un peu moins de miel qu'un apiculteur.
Avec des buckfasts
Avec des abeilles plus performantes. Mais j'ai vraiment le sentiment qu'il y a un bel équilibre qui se fait entre elles et moi. Et ça, c'est très important, je trouve.
Là, vous faites partie du réseau des conservatoires des abeilles noires. Je crois qu'il y en a une douzaine à peu près en France.
L'abeille est noire, justement, là, en montagne, parce que ça lui permet de capter les rayons du soleil. Donc, c'est une question thermique. Elle est un peu plus poilue aussi, c'est la même chose. En fait, on travaille en zone froide. Et les abeilles très claires ne sont pas du tout adaptées pour les Pyrénées.
Eh ben, on approche, là. Voilà. Ça y est.
Donc, elles sont là, ouais.
Il y en a combien des ruches là?
Là j'en ai une trentaine.
Trentaine, et à chaque fois il y en a 40, 50 000 dedans?
Ça peut monter à 60 000, c'est ce qu'on lit. Moi je ne les ai jamais comptés, mais ce qu'on lira dans les livres, c'est plutôt même 60 000 en été. Ça c'est un endroit où elles restent toute l'année. On a 1200 mètres d'altitude, même un peu plus. Il peut neiger beaucoup l'hiver, faire froid, mais en fait ces abeilles là que j'élève résistent très bien. Elles traversent l'hiver très bien et elles ne sortent jamais, c'est-à-dire que ensuite toute la belle saison, il y a des fleurs en permanence. C'est ça qui est chouette à la montagne, ça s'enchaîne. Et à partir du moment où il fait beau, elles peuvent faire du miel et si tout va bien, je peux prélever un petit peu de miel.
Elles travaillent, oui, parce que sinon on leur laisse évidemment pour vivre.
Tout à fait.
Votre Majesté ?
Hein ? Oh, et qu'y a-t-il ?
Voici le rapport officiel sur l'avancement de la récolte.
Le bosquet numéro 1 a été butiné. Mm-hmm. Le bosquet numéro 2 a été butiné. Mm-hmm. Le bosquet numéro 3 a été butiné. Le bosquet numéro 4 a été butiné. Le bosquet numéro 5 a été butiné.
C'est mon préféré, celui-là.
Le bosquet numéro 6
a été butiné. Je suis donc une abeille. Alors, je suis conditionné par quoi ?
Alors, la lumière a son importance, la photopériode a son importance. Ce qui est vraiment le plus important, c'est la température. Pareil, dans les livres, tu liras que les abeilles sortent à partir de 12 degrés. Aujourd'hui, il fait beau, il ne fait pas 12 degrés, je pense, et tu vois que ça bouge beaucoup. C'est marrant, mais cette abeille noire aussi, elle est capable de butiner à 7-8 degrés. Je vais avoir des belles activités, et donc les abeilles sont capables de sortir. Regarde, il y a des coucous sur le bord du chemin, il y a des saules un peu plus haut, il y a les buis. On est dans une zone calcaire où il y a beaucoup de buis. Les buis sont en pleine floraison. Donc les abeilles ont déjà à manger au mois de mars, et elles sortent en masse aussi. C'est beau de voir cette activité-là.
Alors elles sortent le vent, parce que donc, dans cette vallée du vent, donc, ça, c'est pas forcément le meilleur copain
pour les abeilles. Tout à fait. L'abeille, donc, elle pèse 80 mg, elle est forcément. Elle est ballottée dans le vent. Là, regarde, on est vraiment sur la Soulane. Et cette vallée d'Or, elle est orientée bizarrement nord-sud. Ouais. Mais là, on est vraiment plein sud. Le rucher, il prend le soleil très tôt le matin. Et donc, les abeilles peuvent se mettre en route avant que la brise arrive dans la vallée. Ça, c'est hyper important. Moi, je mets toujours mes abeilles dans des endroits où elles peuvent sortir tôt le matin.
Et alors, ce qui est bien aussi, c'est que ce peuple d'hommes, j'ai l'impression qu'on n'a pas peur des autres. Je m'explique. On a l'Espagne qui est à côté et on est sur un lieu de migration.
Donc là,
ça a toujours été ça, quoi, ici.
On est vraiment dans le dernier village de la Vallée d'Or. Après, on est en Espagne. Encore une fois, derrière cette crête, on passe en Espagne. Il y a toute une histoire entre ce village et cette vallée, l'Espagne. Je dirais qu'il y a peut-être une personne sur deux, une personne sur trois dans cette vallée qui est originaire d'Espagne. Il y a eu une immigration économique au début du XXe siècle. Il y a eu une immigration politique. Pendant la guerre civile espagnole, il y avait un épisode très connu, c'est la poche de Bielsa. Bielsa, c'est le village de l'autre côté. Et les derniers républicains espagnols, ils étaient plusieurs milliers, ont passé en fait le col de Port-Vieux, qui est derrière la montagne que vous voyez là-bas, en plein hiver, avec leur bétail, avec les abuelos, les abuelas, les grands-parents, les enfants. Et il y a eu une chaîne de solidarité magnifique, en fait. Et ça a vachement marqué l'histoire de cette vallée. On est dans une vallée qui est effectivement ouverte à l'accueil. Et je trouve ça précieux aussi. C'est très beau. C'est très beau, cette histoire. Vous sentez le buis ? On le sent, là. Moi, je trouve ça... Vous voyez, les fleurs de buis, on ne les remarque pas forcément. Alors, on a la chance d'être en montagne, pas de Pyrale du Buis, hein, en Vallée d'Or, on est trop haut. Et donc, ce ravageur-là, qui est arrivé il y a quelques années, n'est jamais arrivé ici. Et le buis est magnifique, et vous voyez les abeilles qui viennent patiner dessus.
Ah ouais, voilà. Elles sont dessus.
Et ça sent tellement bon quand c'est en fleurs. L'odeur est particulière de la plante, mais la floraison est vraiment chouette.
J'espère que ça passe là, hein, pour vous aussi. Ben oui, d'accord, vous étiez éparpillés un peu partout en France, mais peu importe, ça nous fait en tout cas le plus grand bien. Je tenais à vous citer aussi le livre de Jean Meurice, avec des illustrations de sa fille, Catherine Meurice. Je vous renvoie d'ailleurs à un CO de mon amour, hein, avec Catherine Meurice. Jean Meurice a écrit « La vie secrète des abeilles, l'esprit de la ruche » et c'est très bien fait aux éditions de Lachaud et Niestlé. Nous allons poursuivre évidemment ce voyage dans cette vallée d'or avec Julien Bernardet.
Une abeille un jour de printemps voletait gaiement sur la rose bruyère en fleurs dont si douce est l'odeur. Au pied de la bruyère en fleurs, une pauvre chenille en pleurs regardait voler dans le ciel la petite et son miel. Et la pauvre chenille en sanglots lui disait « Je vous aime ». Mais l'abeille là-haut, tout là-haut, n'entendait pas un mot. Cependant que les jours passaient, la chenille toujours pleurait et l'abeille dans le ciel du printemps. Après avoir pleuré jusqu'à la nuit, notre chenille s'endormit, mais le soleil de ses rayons vint éveiller un papillon. Et sur une bruyère en fleurs, notre abeille a donné son cœur. Chanter les grillons aux petits papillons. Par les bois, les champs et les jardins, se frôlant de leur sel, ils butinent la rose et le thym dans la frais du matin. Ma petite histoire est finie, elle montre que dans
un petit délice, ça, donc interprété par Emma Doma, donc cette chanson d'Henri Salvador, L'abeille et le papillon. Nous repartons dans cette vallée d'or avec Julien Bernardet. Et puis donc nos abeilles noires des Pyrénées. Et j'en profite aussi pour vous citer le nouveau numéro de Pyrénées Magazine, qui est consacré vraiment pratiquement en entier au GR10. Vous le savez, si vous êtes des marcheurs dans les Pyrénées, eh ben vous faites le GR10 de Hendaye à Banyuls, et là c'est vraiment un numéro qui est formidable. On repart dans cette vallée d'or.
Il y a plein de métiers dans une ruche, hein. Il va y avoir des gardiennes, des ventileuses, des butineuses, des nourrices, des cirières, des nettoyeuses.
Mais elles peuvent passer de l'un à l'autre.
Voilà, c'est ça qui est rigolo. Voilà. Nous autres humains, si je fais mon sociologue, mais nous autres humains, on a tendance à prendre un métier, deux métiers dans une vie. Les abeilles, hein, une abeille, ça ne vit pas longtemps déjà, ça vit 6 semaines. Dans ces 6 semaines, en fait, elle va faire tous les métiers. Donc ça, c'est un premier truc qui est assez étonnant.
Bonjour à vous, madame.
Salut Corinne, ouais, ça va.
Allez, à bientôt.
Ouais, plus tard,
à bientôt.
Plus tard, Corinne.
Alors donc nos abeilles font tous les boulots en très peu de temps.
Tous les boulots, ouais. Et ensuite elles se coordonnent, c'est de la pure démocratie ou de la pure anarchie même presque. C'est-à-dire qu'une abeille va prendre ses décisions au sein de la ruche. Elle va se coordonner par des mouvements des antennes. Hein, elle va échanger des odeurs avec les abeilles qui sont juste autour d'elle. Et tu vas avoir
plein de micro-décisions qui vont être prises localement, et tout ça va s'organiser comme un grand ensemble, comme l'organisme humain en fait, hein, sans qu'il y ait un centre décisionnaire, hein, encore une fois, la reine, elle n'est pas reine. On l'appelait reine, d'ailleurs c'est assez rigolo cette histoire, parce que les grands auteurs de l'Antiquité ouvrent des ruches, ça fait très longtemps, hein, c'est comme la vigne, c'est des choses qui ont vraiment accompagné l'humanité. Ils ouvrent les ruches et ils voient une grosse abeille au milieu, et comment on l'appelle ?
Zoren.
Non, on l'appelle le roi.
Ah.
Le roi à l'époque, parce qu'on est dans une société patriarcale. Et en fait, au Moyen-Âge, on s'est aperçu que le roi pondait des œufs. Voilà, donc on l'a appelé la reine. Mais en réalité, ça n'est ni le roi ni la reine, c'est juste la mère de toutes les abeilles. Une ruche, en fait, une colonie d'abeilles, c'est une mère et ses enfants. Hein. C'est une famille d'abeilles. Voilà. Et la mère n'est pas là pour décider, elle joue un rôle, elle pond. C'est la seule qui pond des œufs. Elle fait un boulot parmi d'autres boulots. Voilà, dans une ruche d'abeilles, il n'y a pas de chef, jamais.
Pardon ?
Vous parlez ?
Oui, je m'excuse.
Vous parlez ?
Oui, je sais, je suis vraiment désolé.
Non, c'est rien, ça va. Mais je parle avec une abeille.
Oui.
Et une abeille me parle.
Bon, je vous laisse.
Non, attendez un peu, attendez. Comment avez-vous appris...
À quoi ?
Ça, là, le coup de parler.
Oh, ben, comme vous, j'imagine. Maman, papa, miel, on imprime, vous voyez ?
Ah, c'est amusant.
Ouais, les abeilles ont beaucoup d'humour. Si on riait pas, on pleurait, avec tous les soucis qu'on a. Hein ? Ben oui.
Quand on dit que vous faites du miel bio, donc qu'est-ce que ça veut dire ? Parce qu'en fait, on a l'impression que c'est bio naturellement ici.
Il va y avoir une première dimension, ça tient l'endroit où je vais récolter mon miel bio. Ici, on est dans une zone où il n'y a que des fleurs sauvages. Hein. Il n'y a pas, je sais pas, une autoroute à côté, une usine à côté. Je vais avoir le label bio très facilement. Voilà. Mais il y a aussi une deuxième petite chose qui est un peu plus délicate, hein, au niveau du métier lui-même, c'est que ce sont des animaux qui sont très fragiles. C'est pour ça que la question des pesticides, c'est une question très importante pour les apiculteurs. Hein. Et donc, il faut les soigner. Parfois, on est amené à les soigner. Et donc, quand on est certifié bio, comme c'est mon cas depuis 2010, on les soigne en se passant d'antibiotiques et en se passant de produits chimiques. Sur...
Okay. Voilà.
Enfin, il m'a fallu quelques années pour maîtriser cet aspect, hein, parce que c'est quand même beaucoup plus délicat, quoi. Beaucoup moins simple.
Là, Julien, on pouvait être heureux, c'est qu'en fait, nos chères abeilles, vous le disiez tout à l'heure, donc elles sont quand même d'abord très résistantes, il y a une belle souche aussi, donc d'abeilles noires, puis elles peuvent se dépatouiller toutes seules, enfin presque toutes seules, quoi.
Il se trouve que moi, j'ai dû m'absenter
oui, je comprends. Oui.
Pendant tout l'hiver, parce que j'étais travaillé comme apiculteur dans un autre pays,
ouais.
Et donc j'ai laissé mes abeilles, hein, cet hiver pendant 4 mois et demi.
C'était où, Nouvelle-Zélande,
en Nouvelle-Zélande, une apiculture très différente. J'ai pas voulu embêter les copains, donc j'ai envoyé personne pour contrôler, et ces abeilles livrées à elles-mêmes, en fait elles avaient presque trop de miel dans les ruches. Hein. Donc je suis vraiment heureux.
Et alors ça c'est lié donc à quoi ? Donc au fait qu'il y a eu donc plusieurs générations de ce travail en bio, en solidité par rapport au paysage. Enfin,
alors c'est pas qu'une solidité par rapport au paysage, puisque je pourrais ramener ce qui peut se faire, hein, des abeilles d'ailleurs qui soient plus productives. Pour maximiser en fait ma production, mes profits.
Mais elles seront plus faiblardes de toute façon.
Mais voilà, elles seront plus faiblardes, elles seront plus vulnérables. Dès qu'il y a un petit souci météo, 3 semaines de mauvais temps ou quoi, ben, il faut sortir la cuve à sirop et puis leur donner à manger. Et ça, j'aime pas ça, moi. Ça fait des années que j'essaye de trouver un juste équilibre, hein, entre mon intérêt de professionnel, parce que moi, je vis de l'abeille,
bien sûr, hein.
Mais l'intérêt de mes abeilles aussi. Donc je dirais qu'il y a deux choses qui sont hyper importantes pour moi. La première, ben, c'est justement l'autonomie. C'est-à-dire que je vais leur laisser beaucoup de miel et puis je vais essayer petit à petit de faire une... On parle de sélection massale, c'est-à-dire je vais juste aller sélectionner dans le lot les abeilles qui vraiment ont l'air de se débrouiller sans moi. Et comme ça, année après année, en fait, eh ben, j'ai vraiment des abeilles plus résistantes. J'ai l'impression que ça va de mieux en mieux de ce point de vue-là.
Et là, vous disiez que là, cette ruche dans laquelle nous devons être, 4 ans d'existence déjà ?
La reine, c'est marqué dessus, on peut regarder. Ouais. Elle est d'avril 2021, la reine. Donc ça veut dire qu'elle a déjà 4 saisons. Hein. Elle marche super bien et c'est une mamie. Les mamies sont un petit peu moins vigoureuses. Et je peux être sûr que cette reine-là et cette colonie-là va me faire un peu moins de miel que les copines cette année. Déjà, je la remercie. Elle est là pour moi, elle a été là pour moi, bah, peut-être que c'est à moi d'être là pour elle aussi, et de ne pas passer à autre chose avec elle, de la laisser vraiment aller jusqu'au bout. C'est la première chose. En plus, il se trouve que les vieilles reines, hein, ont tendance à faire un petit peu plus de mal. Il y a des bons vols d'accouplement, hein, que tout se passe bien au niveau de mes autres ruches. En fait, elle va aider mes autres ruches à être en meilleure santé aussi.
L'idée, c'est qu'il y a un écosystème, qu'il y a un cycle qui fonctionne. Là.
Complètement, ouais. Je ne sais pas si vous voyez aussi, j'ai fait une mare. Alors dans la mare, il se passe plein de choses, il y a plein d'animaux. J'ai 5 espèces de libellules en été. Et puis là, avec tout ce que j'ai mis en place, eh ben, au printemps, les abeilles en fait, vont venir se nourrir sur les fleurs de tous ces arbres fruitiers. J'ai surtout des pommiers, hein, parce qu'ils viennent bien en altitude. Les poules, pareil, hein, toute la basse-cour se promène dans l'herbe. Là, hein. On ne parle pas de poules en stabulation. Elles viennent au pied des arbres et puis elles s'occupent des ravageurs. Donc c'est voilà, moi je fais ça à ma petite échelle, mais c'est vrai que ça fonctionne bien ensemble et c'est une belle satisfaction, mais jour après jour, de voir tout ça voilà, traverser les saisons et ouais, s'épanouir, c'est une belle aventure.
Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré
dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause.
C'est une si belle chanson.
Magnifique, je reconnais. Mais pas aussi belle que vous, Majesté.
Merci de m'avoir amenée ici. C'est merveilleux, ma ruche est magnifique.
Le plus elle a de prétendants et le plus elle a d'amoureux, le mieux c'est en fait pour la vie de la colonie ensuite. Hein. Dans une ruche, il y a des demi-sœurs, hein, donc il y a des mâles différents qui vont s'accoupler avec une même reine. Généralement, hein, pour qu'une colonie fonctionne bien, il faut qu'elle s'accouple avec une quinzaine de mâles.
Et alors là, on voit cette fameuse petite danse là qui s'opère, c'est-à-dire je dis aux copines où il y a de la nourriture a priori.
Ouais, ouais, donc les abeilles vont danser, elles vont faire des petits 8 sur les cadres et c'est assez magique parce que en fait, on peut déterminer exactement la direction qu'elles indiquent, la quantité de nectar hein, qui y a trouvé dans cette direction et puis la distance aussi. Tout est indiqué en fait dans cette danse qu'une abeille va faire pour les copines qui sont autour d'elle. Quoi. Voilà.
Là, elles vous sentent bien, hein, c'est votre. Mais au sens premier, c'est-à-dire qu'elles. Ouais.
Elles ont un odorat très développé.
Ah, bah oui, c'est pour ça.
Et beaucoup plus que nous.
Là, je suis toléré. Ne vous inquiétez pas, je vais repartir avec mon petit vélo. Voilà.
Pas de parfum sur les ruches. Hein, attention, elles n'aiment pas ça. Hein.
Là, c'est bon, il n'y a pas de problème. Mais c'est surtout, elles ont identifié votre odeur, là.
Ouais, ouais. Elles ont à la fois l'odorat et elles ont aussi la mémoire. Une abeille peut aller à 10 km de la ruche juste pour chercher à manger. Et 10 km pour un si petit animal, il faut avoir une mémoire très performante. En fait, elles se souviennent de moi, hein, c'est clair et net. Aller les embêter, hein, le moment où je vais les embêter, c'est quand je vais faire des récoltes dans le cœur de l'été, je vais leur prendre un peu de miel. Si je reviens juste 24 heures après, il est clair que les abeilles vont être fébriles, elles ne vont pas être contentes de me voir. À l'inverse, quand je suis revenu au printemps, les abeilles étaient très douces. Hein, parce que je ne les ai pas embêtées la veille, que tout va bien, je passe les voir quand il fait soleil, il y a beaucoup de fleurs, vous avez vu en ce moment, et à ce moment-là, l'accueil est très doux. Quoi. C'est plaisant de bosser avec des abeilles qui sont contentes de vous voir, entre guillemets. Quoi.
Alors dans la symbolique, évidemment, on a l'abeille et le soleil, ça va ensemble, et alors ici... Bingo. Hein, donc...
ouais, ouais. En fait, on est branché sur les fleurs, on est branché sur la nature, on est branché sur les saisons, on est branché sur le soleil. On n'est pas éleveur d'abeilles, nous sommes apiculteurs. On cultive les abeilles, c'est une culture l'abeille. Voilà. C'est assez chouette de voir que c'est un petit peu différent des autres types d'élevage de ce point de vue-là. Et même presque, j'irais plus loin que la culture, on est presque des chasseurs-cueilleurs, nous. On va prendre soin de notre animal, mais elle est libre. Elle peut, hein, vous savez que les abeilles peuvent partir des ruches hein, si elles ne se sentent pas bien. Et on essaie juste de prendre soin d'elles, de les mettre dans les bonnes conditions toute l'année, de les protéger, voilà. Peut-être parfois de les porter dans des endroits où il y a plus de fleurs et où elles se sentiront mieux. Et puis de temps en temps, on va prélever un petit peu notre dîme. Oui. C'est ça qui est assez chouette, là. C'est un métier de chasseur-cueilleur, mais pas de pilleur. Elles sont là pour nous. On est là pour elles. Moi, je leur pique du miel, hein, d'une certaine façon. Je suis aussi leur esclave. À d'autres moments, j'ai des abeilles, parfois, qui peuvent avoir des petites maladies ou une reine qui est en train d'être changée. C'est pas pour autant que je vais les écarter. Je vais travailler. J'ai des ruches, peut-être, ça fait 2 ans, que je n'ai pas prélevé de miel parce que je sens qu'elles sont un peu plus faibles. Voilà. Et je suis là pour elles, encore une fois. C'est un petit contrat tacite qui existe entre elles et moi.
Julien, question rituelle, que peut-on vous souhaiter ?
C'est pas la question la plus facile, mais ouais, c'est chouette aussi de se la poser. On est dans des écosystèmes qui sont magiques, qui sont magnifiques, qui sont encore bien préservés, qui sont aussi préservés grâce à la tradition des gens ici. Moi, ce que j'aurais tendance à souhaiter et à me souhaiter, ce serait évidemment que ça continue ici, mais c'est que ça s'étend d'ailleurs aussi. Que ça regagne des zones où voilà, on a un petit peu perdu la nature pendant des dizaines d'années et qu'on arrive à retrouver cette belle articulation, ce beau lien entre les hommes et la nature plus bas dans les plaines. Et il y a sans doute des endroits où ça se fait déjà, mais que ça se développe, ça s'étend et ça fleurisse encore, pour apprendre un mot des abeilles.
Bon, au revoir les abeilles. Et puis au revoir Julien.
Au revoir Denis.
Un apiculteur, Julien Vernardet, donc dans sa miellerie de cette vallée de l'Or, avec d'ailleurs des pots qui sont estampillés Parc National des Pyrénées, ce qui est un véritable label, et puis donc qui nous montre aussi qu'il y a différentes manières de faire de l'apiculture. Hein, sur les 40 000 tonnes qui sont vendues, il y en a à peu près 10 à 20 000 qui sont fabriquées en France. Et puis vous avez des choses, vous avez des trafics, vous avez du miel brésilien et de Chine qu'il faut à tout prix éviter, enfin, etc. Voilà. Donc surtout, connaissez vos producteurs, si c'est possible pour vous, donc de miel. Voilà. La semaine prochaine, ça va être différent. Nous allons partir dans le très joli Calvados. Pas pour en boire. Non, on va rencontrer Eugène Boudin, le père des impressionnistes. Oui, on va se poser à l'endroit là où il a déposé son chevalet. Ça va nous faire aussi beaucoup de bien. Je vous retrouve sur Instagram, je vous retrouve sur LinkedIn, je vous retrouve sur Blue Sky. Voilà. Et puis, bien sûr, l'application Radio France. Abonnez-vous au podcast de CO2, My Love. Mais oui, il ne reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de dimanche, non sans avoir cité Pierre Chabert, Julie Edgoux et Thierry Dupin qui a choisi les disques.